بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. Mes chers frères, nous commençons aujourd'hui par la grâce d'Allah le tafsir de sourate Al-Fajr. Al-Fajr qui en arabe veut dire l'aube. En arabe, Al-Fajr, ça veut dire l'aube. Alors, dans les premiers versets, principalement dans les 14 premiers versets de ce sourate, dont nous en avons lu 5, طيب, Allah subhanahu wa ta'ala fait le qasam, tout d'abord, la première partie. Allah Ta'ala fait le qasam par 5 choses différentes. Fajr, wa layalin ashr, wa shafi'i wal watr, wa layl idha yasr. Il y a 5 choses différentes. طيب. Et après ça, Allah Subhanahu wa Ta'ala va rappeler à tous ceux qui écoutent le verset du Coran, à tous ceux qui lisent le sourate Al-Fajr et qui l'écouteront tout au long du temps, Allah Ta'ala va les rappeler l'histoire et le passé de certains peuples qui ont été anéantis. L'histoire et le passé de certains peuples qui ont été détruits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous rappelons que, en général, lorsqu'Allah ta'ala, il rappelle l'histoire des peuples précédents, c'est surtout pour les Quraysh, c'est surtout pour les Arabes qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne voulaient pas accepter sa mission et qui se croyaient supérieurs, qui croyaient que comme ils ont différentes tribus, ils sont nombreux, et comme Muhammad est seul, ou il y a quelques sahaba avec lui, dans ce cas, il faisait entendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que n'importe quand il pouvait le tuer ou pouvait l'expulser, d'accord, il se croyait plus fort. Et donc Allah Ta'ala rappelle en permanence l'histoire, et ça on avait déjà vu ça, notre sourate, je ne me souviens plus de quelle sourate, dans laquelle Allah Ta'ala parle de l'histoire du peuple de Salih, hein, la naqa, la chamelle du peuple de Salih alayhi salam, طيب. Donc Allah Ta'ala rappelle l'histoire du peuple de Ad et Allah Ta'ala rappelle l'histoire d'une population qui s'appelle Iram, hein, et Allah Ta'ala rappelle également l'histoire de Thamoud. Donc ça, ce sont des populations qui habitaient près de la péninsule arabe. Et ensuite, en dernier, Allah Ta'ala, il rappelle l'histoire beaucoup plus connue, beaucoup plus mahfouz, l'histoire de Pharaon, comment il a été détruit par Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il avait un royaume inégalé. D'accord? Donc on commence par les 5 choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait qasam au début du surat. Et la règle qu'on répétera toujours, c'est que lorsqu'Allah ta'ala il jure par une créature, c'est pour montrer l'importance de la créature, mais c'est également pour montrer qu'Allah ta'ala c'est lui qui l'a créé et que cette créature est sous son contrôle. Lorsqu'Allah ta'ala il jure par le temps ou l'asr, c'est Allah qui crée le temps et le temps est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rappelle encore ce qu'on avait déjà dit, que seul Allah ta'ala a le droit de jurer par ses créatures. Nous, êtres humains, si nous voulons jurer par quelqu'un, nous jurons par Allah. On fait, je fais qasam par Allah ou je jure par Allah, mais de là à dire je jure sur ma mère ou sur mon honneur ou sur etc. Ça, ce sont des choses qui sont interdites. Donc, premier point, Allah Ta'ala, il dit wal fajr. Et comme on a dit, le fajr en arabe, c'est quoi? C'est la lumière qui est visible dans le ciel juste avant qurb tulu'i shams. C'est-à-dire la lumière qui est visible dans le ciel peu avant le lever du soleil. La lumière qui est visible dans le ciel peu avant le lever du soleil. Et pour chaque chose par lesquelles Allah Ta'ala a fait le qasam dans le surat Al-Fajr, ces choses ont une importance capitale. Les ulama disent quelle est l'importance du Fajr. Tout d'abord, ils disent que l'heure du Fajr, c'est une heure intermédiaire dont à propos de laquelle dépendent deux piliers d'islam. Premièrement, la salat, l'accomplissement de la prière, et également, à partir du moment où on atteint l'heure du fajr, et un peu avant, hein, on ne peut plus manger pour l'accomplissement du jeûne. C'est ce qu'on appelle l'heure du sihri. Et les ulama disent également que Al-Fajr, c'est un signe également de la puissance d'Allah, parce que c'est le moment intermédiaire où la nuit se termine et le jour va commencer. Et ça, on avait déjà eu dans d'autres versets, lorsqu'Allah Ta'ala, il rappelle à l'homme que c'est lui qui alterne le jour et la nuit. On avait expliqué quelles sont les spécificités du jour, qu'on ne retrouve pas dans la nuit et quelles sont les spécificités de la nuit qu'on ne retrouve pas le jour. Et on avait déjà vu ce verset dans lequel Allah Ta'ala dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا jusqu'à la fin du verset, qui veut dire en ce sens que si Allah Ta'ala avait décidé que la nuit perdure, qui autre qu'Allah pourrait ramener le soleil pour vous éclairer? Et on sait que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie possible. Aucune créature, aucun être humain, aucun animal, aucune espèce végétale ne peut vivre sans soleil. Et Allah Ta'ala pose la question dans le sens également, si Allah Ta'ala laissait la matinée, le soleil, qui en dehors d'Allah pourrait faire coucher le soleil pour vous ramener la nuit? Et on avait vu également que le repos ne peut avoir lieu que la nuit. D'accord? Le corps, l'esprit se reposent la nuit. Et on a vu également qu'aucune forme de vie ne serait possible s'il y avait du soleil en permanence. S'il y avait du soleil 24 heures sur 24, bon, on ne parle pas des cas extrêmes comme le pôle Nord ou le pôle Sud parce que c'est une intensité extrêmement faible, mais dans 99,9% des cas, aucune espèce animale ou végétale ou aucun être humain ne pourrait survivre s'il y avait du soleil en permanence. D'accord? Parce qu'on sait, hein, les médecins ils ont prouvé que le soleil peut donner le cancer de la peau. Mais ce n'est pas que vous sortez, vous allez acheter une baguette sur le soleil, vous allez travailler, vous allez avoir le cancer. Non. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont rien d'autre à faire que d'aller sur la plage bronzer. Ils sont blancs, ils veulent devenir noirs. Alors qu'il y en a des gens qui sont bronzés, ils veulent devenir blancs. Ça, c'est un vieux sketch, mais ça, c'est l'être humain qui n'est jamais content. Donc, quelqu'un qui vient s'exposer au UV pendant 2 heures ou 3 heures sur la plage du Boucan ou autre chose, ces gens-là, ils sont en danger. Ils peuvent être malades. C'est-à-dire que l'excès de soleil est peut-être nocif. Si Allah avait décidé que les matinées s'enchaînent et que le soleil ne se couche jamais, toute la création aurait été brûlée, les plantes auraient été brûlées, les arbres fruitiers, tout les faisans, il n'y aurait rien de vivant sur cette terre. Et de même, regardez, hein, quand, si le soleil, là on parle souvent du réchauffement climatique, là on parle moins du réchauffement climatique, il y a la grippe, il ne faut plus dire la grippe porcine, parce que ça aussi ils ne veulent plus. Parce qu'ils vont dire que ouais, les musulmans ils avaient raison, que le porc était impur, on va l'appeler la grippe A. Ah, et en plus, H est une bonne note, d'accord. Donc la grippe A, ah, d'accord. Et là, dans une radio locale de Pancha, ils disent qu'il y a 2 cas suspects à la Réunion, d'accord. Et demain, on aura les résultats. Est-ce que c'est des cas contaminés, oui ou non? On va voir. Hein, celle-là a décidé que ça arrive ici. Ils disent que normalement, ça va arriver. Hein, c'est le nombre de jours, ça arrivera. Et si Allah écrit pour quelqu'un de tomber malade, la personne tombera malade. Si quelqu'un a décidé que la personne ne tombe pas malade, elle ne tombera pas malade. Après, on prend les précautions. Ce que les docteurs disent, on fait. Et il y a un médecin musulman qui me disait dernièrement, il me disait que, j'amène mes enfants là-bas, il dit que la grippe A va arriver à la Réunion. Il a dit, vous savez comment il faut s'en prémunir? Il a dit, oui, lavez-les, mais il a dit, non. Il a dit, dans le courant, il y a la réponse. C'est un docteur, hein. Et il m'a dit que Allah Ta'ala ne parle pas du miel dans le courant. Il a dit, oui, le miel, c'est le meilleur remède qu'on sait. C'est vrai, le miel renforce le système immunitaire. Le miel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, reste à trouver le bon miel, hein, pas les miels chimiques, les miels purs. Ben, bref, ça c'était une parenthèse. Pour revenir à, subhanallah, on est parti un peu loin, pour revenir à ce qu'on disait, l'alternance entre le jour et la nuit. Et donc, Al-Fajr, c'est ce moment clé où la nuit, on pourrait dire comme ça, laisse la place au jour. Où la nuit va s'effacer peu à peu et la lumière du jour va venir pour qu'on passe de l'état de nuit à l'état de la journée. Et Allah dit au Coran, voilà le verset, « In ja'alallahu alaykum al-layla sarmadan » ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra qidat kallah, ceux qui adorent 40 000 divinités, ceux qui disent que telle et telle chose sont divinités, dites à ces divinités là d'apporter le soleil, dites à ces divinités là d'enlever le soleil, qui autre qu'Allah, hein, il peut vous amener une lumière, hein, afala tasma'un. Donc ça c'est, on va être un peu plus rapide, ça c'est l'importance de al-fajr. On a expliqué le sens de al-fajr. Maintenant le deuxième qasam, walayalin ashr, al-fajr qu'on traduit par l'aube bien sûr, hein. Walayalin ashr, et par les 10 nuits. Alors ce verset on l'a déjà plus ou moins entendu lorsqu'on entre dans les 10 d'il-hijjah, hein, dans les bayans qui sont faits, on parle de l'importance des 10 d'il-hijjah. Alors, la majorité des ulama sont d'avis que lorsqu'Allah Ta'ala parle des walayal inash, des 10 nuits, Allah Ta'ala veut dire les 10 jours de Dhul-Hijjah. Car effectivement, le prophète a vanté les mérites de ces jours. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadihi al-ayyamin al-ash, jusqu'à la fin du hadith. Il n'y a pas de jour dont les actions sont aussi aimées par Allah que les 10 jours de Dhul-Hijjah. Cependant, il faut savoir que certains savants sont d'avis, c'est une divergence d'opinion, ce qui est possible, certains savants sont d'avis que les 10 jours, les walayal n'arrache, parce que layal, c'est le pluriel de layla, donc les 10 nuits, ils sont plutôt d'avis que cela correspond aux 10 dernières nuits du Ramadan. sachant l'importance, disent que quand on parle de nuit, pourquoi on va expliquer par jour. Donc, si on parle de nuit, ça veut dire 10 nuits. Donc, ça correspond au Ramadan. Et par rapport au fait que les 10 jours de Ramadan également sont extrêmement importants, parce que dans ces 10 jours, il y a la nuit du Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc, on a vu l'importance de Al-Fajr, on a vu l'importance de Walayalin Ash. Maintenant, la Ta'ala dit le Coran, Wash-Shafi'i Wal-Watr. Bon, ça, le commentaire est un peu plus. Il y a pas mal de kalam dessus. Quand on parle de Wash-Shafi'i Wal-Watr, c'est qu'Allah Ta'ala fait qasam par l'ensemble des créatures. Donc, ça, on ne va pas expliquer en détail. Al-Murad bihi kullul khalq, toutes les créatures. Taïb. Wal-Layli idha yasr, et par la nuit, lorsqu'elle s'écoule. On trouve ça. Wal-Layli idha yasr. Taïb. Alors, la nuit, quand elle s'écoule, c'est-à-dire quand la nuit, elle s'enfonce un peu plus, donc il fait de plus en plus noir. C'est l'opposé de Al-Fajr. Et cela commence à partir du Maghrib, et cela va durer jusqu'au Fajr, jusqu'au lever, jusqu'à peu avant le lever du soleil. C'est là qu'on parle de Wal-Layli Idha Yasr. Alors, Allah Ta'ala fait qasam par ce moment aussi, l'entrée de la nuit, parce que dans l'entrée de la nuit, il y a la Salatul Maghrib, il y a également la Salatul Isha, il y a également le Qiyam Al-Layl, le Salat Al-Tahajjud, et il y a également l'accomplissement du Witr, pour ceux qui font le Witr avec le Tahajjud, ou alors ceux qui font le Witr avec le Isha, mais c'est le même tartib. Il y a quatre ibadats distincts, le Maghrib, le Isha, le Tahajjud et l'accomplissement des Witr. Et l'importance de la nuit par rapport à l'ibadat, c'est intimement lié au Qiyam al-Layl. L'importance de la nuit est liée au Qiyam al-Layl par rapport au fait que dans la nuit, il y a un moment exceptionnel dont on ne trouve pas l'équivalent dans toute la journée. Le prophète me dit dans le hadith que dans le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, il a sa main et dunya. Allah ta'ala, il descend jusqu'au ciel qui est intermédiaire de ce dunya. Nous savons qu'il y a combien de ciels? Il y a 7 cieux. Il y a combien de terres? 7 couches de terre. Les scientifiques, ils ont découvert maintenant, depuis un siècle, en géologie, qu'il y a 7 couches de terre. Mais la question du ciel, ils ne l'ont pas encore découvert. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ils ne le savent pas encore. Viendra une époque, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 100 ans, ils découvriront que le ciel existe. Parce que pour l'instant, la notion de ciel n'existe pas chez les scientifiques. Tandis que dans l'islam, le ciel, c'est quelque chose de mahsous. C'est quelque chose de solide qui existe vraiment. La preuve, lors du Mi'raj, lorsque le prophète est monté avec le Bouraq, ils arrivaient à chaque ciel et l'ange, Jibril Salam, cognait. Et le gardien ouvrait la porte et il souhaitait le bienvenu à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans l'islam, nous sommes persuadés que le ciel existe. Et c'est quelque chose de, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de palpable et de solide. Mais aucune créature, aucun être humain, pardon, ne peut accéder au ciel. Les djinns, eux, peuvent accéder à la limite du ciel, ce qu'ils font, pour entendre les paroles. Quand Allah Ta'ala dit que telle chose va se produire, Allah Ta'ala envoie l'ordre aux anges et parfois il y a des shayatines qui écoutent. Et lorsqu'ils ont des brides d'informations, ben là ils redescendent sur la terre, ils vont dire aux marabouts, aux sorciers, aux devins, etc. que voilà, il y a telle chose qui va se passer. Et lorsque les anges voient ces shayatines s'approcher du ciel, les anges envoient des boules de feu pour les chasser. Ce qui fait que parfois ils entendent un petit bout d'information. Et lorsque un devin ou alors Nostradamus ou je ne sais pas quelle autre personne, ils disent que voilà, à telle époque, il va se passer telle chose, et qu'on dit, tiens, mais c'est vrai, ben Bouglan avait raison. Peut-être que c'était un homme pieux. C'était pas un homme pieux. C'était une personne qui a procédé de la même manière que les Arabes dans les Jahiliyyah procédaient, les sorciers dans l'époque d'ignorance, et à toutes les époques, avant les Arabes aussi, dans toutes les communautés, que ce soit en Occident. En Occident, si on brûlait les sorcières, que ce soit en Orient, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, quels que soient les continents, il y a toujours eu des personnes qui travaillaient avec les shayatines et qui informaient les hommes de l'avenir. Ça ne veut pas dire que ces gens, ils avaient des pouvoirs. C'est qu'ils avaient des relations avec des shayatines qui ramenaient les informations du ciel. Alors, si quelqu'un, il entend, il envoie un SMS 97-300, je ne sais pas quoi, ça c'est haram, ça. Votre horoscope ou autre chose, et il dit que ben voilà, vous allez, en général, ils vous disent, vous avez une bonne nouvelle, hein, vous allez rencontrer un garçon, ben vous allez vous marier, vous arrivez, et que vraiment quelque chose arrive, ça ne veut pas dire que cette personne est pieuse et véridique. Non, c'est-à-dire qu'elle a eu l'info avec les shayatins. Et ça, c'est une épreuve de la part d'Allah également. Pensez-vous qu'Allah Ta'ala, na'ouz billah, n'est pas capable de faire en sorte que les shayatins n'accèdent pas au ciel pour ne rien entendre, pour ne pas tromper les gens? Mais bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas monter au ciel? Est-ce qu'Allah ne le veut pas? Et pourquoi les shayatins montent? Parce qu'Allah Ta'ala les a donné ce pouvoir et Allah Ta'ala est d'accord là-dessus. Allah Ta'ala, il laisse ses créatures écouter quelques paroles pour éprouver les gens, pour voir qui c'est qui va écouter ce qu'ils disent et qui c'est qui vont se dire que même si ce qu'ils vont dire c'est peut-être vrai, parce que vous savez, parfois il y a des gens qui sont dans des situations tellement difficiles, ils ont des problèmes énormes, financiers ou familiales ou autre chose, c'est comme si ils sont proches du suicide. D'accord? Alors ils aimeraient savoir, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, ils connaissent que la vie vaut encore le coup d'être vécue. Si le devin, le bougle, je ne sais pas quoi, il me dit que non, tu vas encore payer de ton machin et tout, mais autant je me suis dit, c'est fini. Donc, c'est-à-dire que je veux une information, je ne vais pas faire du mal aux gens, moi. Je ne vais pas faire une sorcellerie contre lui pour qu'il meure, pour qu'il tombe malade, pour qu'il perde son travail, pour que son épouse le quitte, etc. Non, moi, je ne veux pas du mal à personne, moi. Je veux juste savoir, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais retrouver ma vie d'avant, l'harmonie dans mon couple, c'est tout. Mais ça aussi, c'est haram. Parce que le prophète m'a dit « Man ata kahinan » ou comme le prophète sallam « Fasaddaqahu bima qal faqad kazzaba bima unzila ala Muhammad » Celui qui va voir ces gens et qui « Fasaddaq » il croit à ce que ces personnes disent, il a fait kouf. Cette personne a renié. C'est-à-dire que ce qui m'a été révélé, vous avez renié, vous avez refusé. La personne fait kouf. C'est quelque chose donc d'extrêmement grave. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, je ne sais pas où est-ce qu'on était pour arriver jusque-là. Donc, dans le dernier tiers de la nuit, Allah Ta'ala descend au ciel, qui est le premier ciel intermédiaire de ce dunya. Et là, alors on dit que quand Allah descend au ciel, ça c'est Allah seul qui sait, comme on dit dans les livres de l'Aqidah, « Kama yaliqu bihi azza wa jalla », comme Allah seul le sait. Parce que quand nous, par exemple, moi je descends l'escalier. Est-ce que Allah il descend par une billah? Ça, il n'y a aucun rapport. Les verbes, les descriptions, les adjectifs qui qualifient Allah, on appelle ça dans l'aqidah lafzul mushtarak, des termes communs que nous pouvons comprendre. Ah, descendre, je sais c'est quoi. Un fruit du paradis, je sais c'est quoi. Quand on parle d'un fleuve dans le paradis, je sais c'est quoi. Quand on parle du miel du paradis, je sais c'est quoi. Mais est-ce que le miel du paradis, c'est le miel de Carrefour, Koura ou Dia? Non. Est-ce qu'un fleuve du paradis, c'est comme Takamaka ou comme un... Non, aucun rapport. De la même manière, les adjectifs qui qualifient Allah Azza wa Jal, et les verbes qui définissent ce qu'Allah il fait, ce sont des verbes que nous comprenons. D'accord? Mais cela, c'est comme cela sied, S-I-E-D, comme cela sied à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa grandeur et sa splendeur. Donc Allah ta'ala, il descend au ciel qui est à la limite de ce dunya. Et là, Allah ta'ala, il donne la solution à tous les problèmes du monde. Allah ta'ala, il vous donne la solution. C'est-à-dire, la solution, c'est pas en envoyant un SMS à tel bout qui va vous dire la vérité. C'est pas en envoyant love à telle affaire pour gagner madame. C'est pas en envoyant chance pour avoir de l'argent. Non. Ça, ce sont des menteurs et des tricheurs. Et des gens qui ont renié ce qu'Allah a révélé. Allah, il descend tous les soirs, dernier tiers de la nuit, pour vous apporter la solution à vos problèmes. Allah Ta'ala, il demande, man yas'alni fa'u'tihi. Mais ça, c'est exceptionnel, ça. Parce que c'est pas un ministre qui vient vous dire qu'est-ce que vous voulez, c'est pas, j'allais dire son nom, excusez-moi, c'est pas le ministre de l'Outre-mer qui vient vous dire alors c'est quoi votre problème, vous voulez 150 euros, 200 euros, et lui va faire quoi? Il va rapporter à son supérieur, qui va rapporter, et on va faire passer la loi, et on va voir au Sénat, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord. Non! Là c'est Khaliq, Ar-Rab, le Seigneur des mondes, le Créateur qui vous demande, qui me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un pour demander que je lui donne? Man yas'alni fa'u'tihi. Vous êtes malade? Demandez la santé, je vous donne. Vous avez des problèmes financiers? Demandez, je vous donne. Vous avez tel souci? Vous voulez telle chose? Vous avez telle difficulté? Demandez, je vous donne. Et puis, on a déjà expliqué dans le hadith que lorsqu'Allah Ta'ala accepte un doigt, soit Allah il vous le donne, soit Allah Ta'ala il vous garde l'équivalent de ce doigt en récompense dans le jour de Qiyamah, vous verrez ça. Et peut-être que je demande, oh Allah, je veux avoir tel travail. Oh Allah, je veux marier avec Fatima. Allah, il ne vous donne pas. Vous demandez Zohar, Asan, Maghrib, Isha, Tahajjud. Vous allez Hajj Arafat, vous demandez. Devant Kaaba, Multazam, vous demandez, oh Allah, marie Fatima, ben, je veux avoir tel travail. Allah, il ne vous le donne pas. Alors qu'Allah a promis que le Tahajjud, il accepte. que doit Arafat, c'est comme ça. Doit Multazam, c'est comme ça, etc., etc. Après avoir bu le Zamzam, il doit aussi s'accepter. Allah, il ne vous le donne pas. Ça ne veut pas dire qu'Allah n'a pas accepté, hein. Ça ne veut pas dire non plus que vous êtes trop sale. N'a'ouzi billah, qu'Allah, il ne vous accepte pas. Alors, Shaitan, il vient vous dire, ben, couche ici, elle vous demande, demande, demande. Là-haut, telle villa, d'aller haut, nanana, boug, il fait tout petit travail. Amène les 200 euros, il fait tout petit travail, il est là où ce qu'on veut. Shaitan va vous dire, quel intérêt de demander quelqu'un qui ne vous donne pas? Alors là, c'est le piège de Shaitan. Pourquoi Shaitan vous dit ça? Parce qu'il sait que s'il arrive à tirer de votre bouche une parole, vos doigts ne seront plus acceptés. Allez, dit que Allah Ta'ala accepte le doigt jusqu'à ce que l'homme dit « Da'autu falam yustajabli » au Kamaqal al-Assalam. Jusqu'à ce que l'homme dit « J'ai demandé mais j'ai rien eu. J'ai demandé mais Allah n'accepte pas. » Quand on dit ça, là c'est fini. Là, votre papier est grillé. Là, c'est fini. Quand je dis que « Il demande, Allah ne donne pas, moi il n'accepte pas. » Là, Allah n'acceptera plus. Mais tant qu'on demande avec espoir et on sait que Allah il donne de deux manières. Soit il vous le donne direct, ce que vous voulez, soit Allah il vous donne pas. Mais si Allah il vous donne pas, c'est quoi? C'est pas la méchanceté, na'oudou billah. C'est qu'Allah il sait qu'il n'y a pas un bien pour vous dedans. C'est qu'Allah il sait qu'il n'y a pas un khair pour vous dedans. Mais Allah il va vous garder ça. Le doigt là il n'est pas payé juste parce qu'il n'y a pas un khair pour vous dedans, il n'y a pas un bien que le doigt est effacé. Non, voilà l'équivalent du doigt, mais le doigt ne se pèse pas en kilo. Ça c'est des notions abstraites. C'est Allah seul qui le sait. Ce doigt que vous avez demandé, Allah, c'est comme si Allah le convertissait, passez-moi l'expression, en sawab. Et le jour de Qiyamah, on a déjà dit ce hadith, un homme se présentera près de la balance. Et il va reconnaître ses bonnes actions, ses péchés. Il va voir une quantité de sawab qui ne lui appartiennent pas. Ça c'est la qudrat d'Allah, on le répète, mais ça c'est un rappel bénéfique pour le croyant. La qudrat d'Allah est telle que le jour de la résurrection, chaque être humain reconnaîtra ce qu'il a fait de bon ou de mauvais. Donc je vous demande, cher, il y en a 2 ans, on rappelle, vous l'avez d'un moins un coup de main, vous n'avez pas d'argent pour acheter de pain, vous l'avez d'un moins. Je ne me rappelle plus, fini ça. Voilà pour un péché. Je me rappelle, vous l'avez traversé un machin de clé, elle m'a dit, baisse de regard, on en a un groupe de filles, elle passait, ouais, regardez, oh. Vous rappelez, dis-moi, le tantin t'habillait comment? Son cheveu était comment? Quelle marque son machin? Est-ce qu'il était mettre un jean caporal, lui ou non? Parce qu'il n'y a rien que ça part en ce moment. D'accord? Hein, tout le monde a vu ça, Allah, on s'en calme, nous pardonne. Elle dit, vous demandez à moi, tantin, ma vie, il y a 2 ans. Il dit, entre temps, ma vie est grave, j'ai fini ça, elle est vieux, dis-moi, ça ne m'habite à l'heure là. Elle dit, le péché est oublié, lui, oui ou non? Le péché est oublié par le cerveau. Mais est-ce que c'est parti ça, là, Allah? Un péché accompli, qui c'est qui est là? Allah est témoin. 1. Les anges qui inscrivent, 2. Écriture dans le livre qui reste. Et quand on meurt, le livre est plié. Et le livre, dans certaines versions, est sous le arche d'Allah. Et lorsqu'on est ressuscité, les livres, les suhuf sont distribués, chacun le prend soit comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. L'endroit où vous avez fait le péché, la rue Marshall Leclerc, la rue des bons enfants, la rue des vilains enfants, cet endroit-là, il est témoin le jour de Qiyamah. Il dit que le péché est accompli à un endroit. Et c'est pareil pour les bonnes actions. Les mêmes témoins, ils témoigneront pour les bonnes actions. Et qu'est-ce qui manque? Les membres. Parce que les membres aussi, ils vont parler. Le jour de Qiyamah, Allah va donner le pouvoir aux membres de témoigner. L'œil dira que j'ai été utilisé pour faire telle chose. La main dira, on m'a utilisé pour voler, pour frapper, pour détourner de l'argent, pour je ne sais quoi ou je ne sais quoi. D'accord? Donc, pour revenir à ce qu'on disait, alors la personne, Allah donnera à chaque être humain la possibilité de reconnaître là, dans le dunya, comme on l'a dit, une bonne action faite il y a 5 ramadans, je ne rappelle plus. Est-ce qu'il y a 5 ramadans, vous avez fait Qiyamul Layl toute la nuit de 27e? Ah, tu ne me rappelles plus ça. Il y a eu 4 ans. On ne rappelle plus. Mais Allah, il ne l'oublie pas. Et comme on a dit, tout ça, ça se souvient. Le péché également. Mais le jour de Qiyamah, chaque être humain reconnaîtra bonne action par bonne action. Ça oui, depuis 1980 jusqu'à 2060, il reconnaît. Et pareil pour les péchés. Alors là, cet homme, il va voir des montagnes de bonnes actions. Pour lui, il va dire, oh Allah, ces bonnes actions-là ne m'appartiennent pas. Vous croyez que Allah, il se trompe? Vous croyez que les anges-là, ils se trompent? Ça, c'est plus qu'expert comptable, ça, ben ange-là. Il est plus qu'expertise, ça. Ça ne les trompe pas, ça. D'accord? Allah Ta'ala va dire à cette personne, en ce sens, que ça, ce sont les doigts que tu avais demandé, que je ne t'ai pas accordé. Et Allah, il donne en compensation des tawab. Alors, il dit que la personne aurait souhaité, il souhaitera plutôt, je crée à mettre, qu'aucun de ses doigts n'aurait été accepté sur ce dunya, afin qu'il ait tout ça en sawab, en récompense. Parce que là-haut, on va rechercher un subhanallah, un zikr, un sijda, une bonne action va rechercher, mais on ne pourra pas avoir. Personne ne vous donnera. D'accord? Donc, c'est le moment où Allah Ta'ala accepte les doigts. Allah Ta'ala dit, « Man yas'alni fa'u'tihi » et Allah il donne à ce moment précis le dernier tiers de la nuit. « Man yad'uni fa'astajiba lah » qui me demande, c'est à peu près, là c'était qui me demande, qui demande et je donne. Et là c'est qui m'invoque que j'accepte son invocation. « Man yastaghfirni fa'aghfira lah » qui me demande pardon que j'accepte son repentir. Ça, c'est la qualité d'Allah Ta'ala. Ça, c'est vraiment Allah, il est Ghafur Rahim. À ce moment de la nuit, Allah Ta'ala donne, Allah écoute et Allah pardonne. Maintenant, que dire de quelqu'un, moi en premier, qu'Allah nous pardonne, que dire de quelqu'un qui dort jusqu'à Fajr. Il met le réveil 5 minutes avant Fajr, pour venir juste namaz. Que dire de quelqu'un qui met son réveil 7h30 pour aller travailler. Allah Musta'an. Personne qui met son réveil 7h30 parce que je rentre travail 8h30, 7h30, je me lève. Je vais acheter le pain, j'amène le pain, les enfants goûtent, je prends ma douche, je bois mon café, je vais travailler. Parfois, je dis à mes élèves, madrissa, comme ça, je dis, ben, on a fait Fajr grand matin? Elle dit, pas gagné, fait, oui, ça n'a pas gagné levé. Elle m'a dit, quand on les voit l'après-midi, hein, à 4h, elle me dit, vous l'avez fait Zohar? Elle dit, non, t'es l'école, t'es la cantine, parce qu'ils mangent la cantine en plus. D'accord? Elle m'a dit, ben, quelle différence entre où et un. Enfin, mais ça n'a pas dit non. Entre où et un kafir? Quelle différence entre toi et un kafir? Ou la lève comme un kafir, ou viens devant moi comme un kafir. Le kafir, là, où camarade de l'école, là, ça fait n'a pas iman. Il la lève comme moi, il la lève même l'heure que vous. Il la boit son dent, il la mange son de pain, son affaire. Il la boit son affaire, il a parti de l'école. Il a travaillé, midi, il la mange avec vous à table. Le même affaire que vous. Le poulet, le bœuf, casse pas la tête. Koulouha, là, il a mangé. Et là, la seule différence, c'est que là où vient, il y a sabbat. Et lui, il a joué PSP ou il est parti jouer au football. Il m'a dit, quelle différence dans ta relation avec Allah? Il dit, ça, mais. Donc, que dire d'une personne qui ne se soucie même pas de se réveiller pour Fajr. Wallah, et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Et qu'Allah nous donne la possibilité, ceux qui ont du mal à venir à Masjid pour Fajr, qu'Allah leur donne la force et le courage de le faire. En ce moment, Namaz est 6 heures. Je ne sais pas qu'il est 6 heures 5 ou 6 heures 10. Fahim? Et là, on est en hiver, là. 6 heures moins 10. Il reste ici. D'accord, Moufia aussi 6 heures moins 10. Fahim? Là, on est en hiver. Hein? Dans certains hadiths, pour ça, il dit, dans certaines versions, que le, je ne sais pas si c'est un hadith ou si c'est un kalam de tabi'in ou de sahaba, que l'hiver, ashita rabi'ul mu'min. C'est un jeu de mots ça. L'hiver, c'est le printemps du musulman. Pourquoi c'est le printemps du musulman? Parce que c'est la saison de l'année où on peut faire plus facilement les ibadats les plus aimés par Allah. C'est-à-dire en hiver, la nuit est longue. Le subh sadiq, c'est-à-dire le moment intermédiaire pour garder le rosa. C'est-à-dire pour faire le tahajjud est très loin. Là, 6 heures, vous pouvez faire fajr jusqu'à 6 heures, tahajjud jusqu'à 5h25 ou 30. 5h28, allez, estime 5h25. Quelqu'un, est-ce que c'est compliqué de se lever à 5h? C'est pas compliqué. D'accord? Si quelqu'un a un avion à prendre 6 heures du matin, il va aller à 3 heures, lui. Il va le lever, lui, oui ou non? À qui? D'accord? Donc, en été, tahajjud, on peut faire jusqu'à 90, 95. C'est vrai que c'est un peu plus dur, mais en hiver, jusqu'à 5h25, c'est-à-dire à l'heure que parfois on se lève pour Fajr. Qui va rater cette occasion? Ça c'est un. Et deuxième chose, donc en hiver, les journées sont courtes. On casse carême, on peut faire le futur, l'iftar à 6h-10. Ça va arriver jusqu'à 6h-20. La journée est courte, quelqu'un veut faire le jeûne, la journée est facile, il peut faire le jeûne, c'est beaucoup moins long que... Donc c'est pour ça que le prophète dit que l'hiver, c'est le printemps du musulman, donc pour faire le maximum de ibad. Taïb. Je pense qu'on va s'arrêter à là. Et donc, on avait dit que donc Allah Ta'ala demande qui me demande, je donne, qui m'invoque, j'accepte, qui me demande pardon, que je pardonne à cette personne. Donc c'est un moment important qu'Allah Ta'ala a cité en Qasam, wal-layli idha yas, c'est par rapport au fait qu'il y a les ibadat qu'on a cités, et entre autres, il y a le moment où Allah Ta'ala accepte les invocations du musulman. Alors, est-ce qu'on va passer à Hal fi dhalika qasamun li dhi hijj? Tayyib, on va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, hein, parce qu'on a déjà fait 30 minutes, 29 minutes, la prochaine fois, on va faire maintenant, quand Allah Ta'ala, on va passer au verset, quand Allah Ta'ala évoque le cas des peuples précédents, Ad, Hiram, et le peuple de Thamoud, le peuple de Pharaon. Et comment Allah Ta'ala a détruit ces gens malgré le fait que ces gens étaient forts. Et ça, c'est une qa'ida. C'est une règle qu'on peut appliquer à toutes les époques. Ces personnes-là, ils se croyaient plus forts. Et le prophète sallam, hein, il donne cet exemple donc devant ses collèges qui eux aussi se croient plus forts. Et nous aussi à notre époque, il y en a qui se croient plus forts. À notre époque, il y en a qui avec leur armée, leur technologie, leur savoir, ils se croient supérieurs, qu'il n'y a pas de Dieu. C'est nous Dieu, à nous il crée, à nous il fait, à nous la machin, on clone des gens, on trouve des médicaments, on fait la vie, vient de nous. Il y a des gens qui se croient supérieurs. Mais si on compare notre force, pour rester dans le domaine de la force physique, si nous comparons notre force physique à nous et la force physique des peuples, comme le peuple de Ad, de Thamoud, qui creusaient des maisons dans les montagnes avec leurs mains, avec leur matériel, ben nous, on va dire que nous aussi on fait des grands immeubles. Hein, dans Iramazat, Al-Imad, Al-Lati, Lam Yukhlaq, Misluha, Fil-Bilad, des constructions comme on n'a jamais vu à peu près. Voyez, on va dire que nous aussi on fait des grands constructions. D'accord, on fait des grandes constructions, mais nous matériel, nous la grue, nous avons tractopelle, nous avons tout ça. Mais ils ne faisaient pas tout ça avec leurs mains, avec leur pelle et leur pioche. Allah, ils avaient donné une force extraordinaire. Donc cette force-là était devenue un fitna pour eux. Ils étaient tellement forts physiquement qu'ils se croyaient supérieurs à tout. Et Allah les a détruits pour qu'ils comprennent bien que c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui est supérieur. Qu'Allah nous offre de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de comprendre qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui, l'importance de la prière de Fajr, l'importance du Qiyam al-Layl, l'importance donc du Tahajjud, hein, ce moment où quelqu'un a un problème, il se réveille, il demande à Allah Ta'ala, il frappe à la bonne porte, il frappe directement à la porte de celui qui donne, il n'y a pas besoin de passer par des intermédiaires. Nous ne sommes pas comme dans d'autres religions où il faut passer par un religieux qui va accepter votre pardon. Non, du tout. Un musulman a besoin de contacter Allah Ta'ala, contacter entre guillemets, il fait wudu, deux rakat, soit hajja, deux rakat nafil, demande-toi, et il est en contact direct avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah nous donne les yeux du cœur pour comprendre qu'à travers la création d'Allah, il y a là des signes de la force, de l'existence d'Allah, bien sûr, de la force et de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.